du gouvernement.
Heures, le journal du classique avec Laure Maison sur Radio Classique.
Bonsoir à tous. Elle donnera le tout premier concert public à la Philharmonie de Paris après un mois et demi de fermeture le 15 décembre. La soprano Diana Damrau nous fera partager ce soir à cette occasion ses émotions et nous parlera de ses reines de Tudor qu'elle vient de célébrer dans un sublime enregistrement sorti chez Erato. Nous nous offrirons ensuite une petite escapade italienne avec Emmanuel Giuliani du quotidien La Croix. Mais pour commencer, comme chaque soir, quelques nouvelles de l'actualité musicale. Pour sa sortie de confinement, l'Opéra de Lille proposera deux concerts gratuits les 15 et 16 décembre. Rendez-vous mardi 15 à 19h30 avec le quatuor Van Cuyck, le pianiste Alphonse Semain et la mezzo-soprano Victoire Bunel dans un programme de musique romantique française. Et puis mercredi 16 à 18h avec des solistes du concert d'Astrée dans des pages de Mozart. Deux concerts gratuits, mais sur réservation, au guichet ou sur le site de l'Opéra de Lille. Avant de retrouver le public le 15 décembre à la Philharmonie de Paris et avec Diana Damrau, l'Orchestre National d'Île-de-France poursuit ses concerts dans sa nouvelle salle virtuelle. Des concerts captés en fait dans différents théâtres d'Île-de-France et diffusés sur le site Ondif Live. Avec un petit changement de date dans la programmation, puisque le conte Hänsel et Gretel, adapté par Emmanuel Cordoliani et mis en musique par Damien Lehmann, prévu à l'origine pour être diffusé le 6 décembre, sera donné finalement le 13 décembre à 16h en direct depuis le théâtre Luxembourg à Meaux avec Fiona McGowan et Marianne Crew dans les deux rôles titres d'Hänsel et Gretel. L'Orchestre National d'Île-de-France sera pour l'occasion placé sous la direction de Romain Dumas. La boîte à pépites de Noël, ainsi s'intitule le calendrier virtuel de l'Avent, imaginé par l'association Elle Creative Women. Un calendrier pensé comme un festival d'hiver virtuel constitué de 24 capsules vidéo dédiées à 24 compositrices de toutes les époques et de toutes les nationalités. De Hildegard von Bingen jusqu'à Camille Pépin. Une trentaine de musiciens se sont associés à ce projet, parmi lesquels Geneviève Laurenceau, David Cadouche et Karine Dehé, qui célèbrent Mel Bonis dans la capsule du jour, celle du 3 décembre, ou bien encore le quatuor Modigliani, que vous découvrirez demain dans une page de Rebecca Clark. Un calendrier de l'Avent, la boîte à pépites de Noël, à découvrir sur les réseaux sociaux jusqu'au 24 décembre.
Laure Maison sur Radio Classique.
C'est donc avec Diana Damrau que nous passerons un petit moment ce soir. Diana Damrau qui vient de nous offrir un album dédié aux reines de Tudor, célébré par Donizetti. Un album qui réunit les scènes finales de trois opéras majeurs, à savoir Maria Stuarda, Anna Bolena et Roberto Devereux. Diana Damrau, qui donnera le tout premier concert public à la Philharmonie de Paris après un mois et demi de confinement. Elle sera aux côtés du baryton basse Nicolas Testé et de l'Orchestre National d'Île-de-France, dirigé par Ivan Repoussic, dans un programme célébrant les rois et les reines. Un moment, un concert qui s'annonce particulièrement émouvant, tant pour le public que pour la chanteuse, comme Diana Damrau me l'a confié lorsque j'ai pu la joindre à Zurich.
Tout d'abord, c'est une grande joie de pouvoir se retrouver. En plus, c'est avant Noël et on a besoin de la musique, on a besoin de bonheur et maintenant on peut se revoir. Limité, mais déjà, c'est l'occasion. C'est très très spécial et très 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 beau pour nous.
Et ce concert sera l'un des rares maintenus de votre tournée européenne autour de ce programme qui célèbre les rois et les reines. Est-ce que vous avez déjà pu le donner en public, ce programme ?
On avait préparé aussi une tournée en Asie et tout ça s'est sauté tout de suite. Et maintenant, nous avons fait juste un concert à Sofia au début de septembre. Maintenant, ce serait la deuxième fois avec un autre orchestre, avec un autre chef, dans une autre ville, dans un autre pays. Donc, quelque chose tout nouveau et toujours nouveau parce que on le bouge, on le chante pour nous. Ce sera un bon événement pour nous tous.
Dans votre tout récent album, Diana Damrau, vous célébrez les reines, trois reines de Tudor, mises en musique par Donizetti, un album que vous avez enregistré avec Antonio Papano et l'orchestre de l'Académie Sainte-Cécile. Ce sont des femmes fortes, puissantes, combatives, mais aussi sensibles et vulnérables. Elles sont confrontées à la mort, à l'instar de Maria Stuarda, qui dans son dernier air se dirige vers l'échafaud. Est-ce que la combativité de ces reines vous a vous-même aidé, nourri en cette période si difficile que nous traversons? Est-ce que vous êtes allé chercher quelque part de l'énergie dans ces personnages, dans ces femmes?
Tout d'abord, je dois dire, avec le confinement, avec le changement de profession, parce qu'on est devenu des professeurs élémentaires en français et allemand. tout d'abord, je dois dire, j'ai laissé un peu à côté l'opéra. J'ai chanté que de la musique d'église. J'ai chanté du Bach, du Mozart, juste pour calmer, pour digérer le choc et le changement que ça a amené. Et c'est encore présent. Mais on a besoin de se faire du bien. Quand on voit ces reines, il faut jamais lâcher. C'est ce que j'apprends pour moi dans ces temps-là. Tout a changé parce que on chante pas toutes les semaines sur les scènes. On a le public, on est dedans comme un cheval de course qui fait ses courses et rien d'autre. Maintenant, nous avons des trous, des grands trous. On n'a pas la possibilité de voir le public. Quand on chante, c'est toujours le Mount Everest parce qu'on a beaucoup moins de répétitions. Tout est différent avec la distance et tout. Et après, on doit faire des concerts mondiaux. C'est toujours en streaming, hyper, hyper important. Donc, c'est très, très stressant et on doit vraiment tenir parce qu'on est là pour le public, pour la musique, pour transporter le bon et le bien. Et ces reines, vraiment, elles donnent un exemple de force, de contrôle de eux-mêmes, L'exemple, par exemple, de Maria Stuarda, c'était une reine, mais aussi une femme. Elle n'a pas poussé à côté sa féminité. Elle a eu des partenaires. Elle a aussi, je crois, un peu utilisé ses moyens comme femme pour faire la politique, pour défendre son royaume, pour défendre la foi. Elle a fait vraiment la politique jusqu'au dernier moment. Elle portait, et c'est historique, c'est vrai, quand Maria va dans ses derniers moments, elle enlève son costume gris qu'elle portait, et en dessous, elle avait un habit, une robe rouge. Rouge, c'était la couleur des martyrs. Elle mourait pour la foi, pour le catholicisme, pour son peuple. Donc, elle allait jusqu'au bout et tenait une force royale, malgré tous les sentiments et toute la peur. Et c'est intéressant de voir comment les compositeurs leur ont donné la musique des moments dans des situations vraiment extrêmes. Parce que tous les trois reines, elles meurent à la fin.
Et c'est pourquoi vous avez choisi d'enregistrer à chaque fois le final de ces opéras pour les confronter à la mort, pour les confronter à ce destin terrible, Diana Damrau.
Ces scènes finaux, c'est le pic de tout. En ces temps-là, politique, c'était très dangereux. Elles avaient tout le temps peur pour leur vie. Donc on voit dans quelle tension tous les trois vivaient. Et ce que les occupait. Et Elisabetta, à la fin, c'est presque comme une implosion, parce qu'elle oublie complètement soi-même. Donc, tout le monde peut prendre un tout petit peu pour soi-même, mais il y a une idée qui le touche. Yeah, c'est pour ça qu'on fait de la musique aussi.
Uscite!
Vous chantez notamment Diana Damrau dans cet album, la scène finale de Roberto Devereux avec cet air impressionnant d'Elisabeth. Elisabeth confrontée à la mort, Elisabeth qui renonce à gouverner. Interpréter ces personnages dans ces moments si forts de ces opéras de Donizetti semble demander un engagement assez intense. Et d'ailleurs, vous dites vous-même dans le livret, vous parlez d'un engagement absolu, d'une assurance et d'une prise de risque. Ce sont parmi les plus grands défis que vous ayez à relever lorsque vous chantez ces personnages, Diana Damrau, ces trois reines de Tudor.
Ah oui, les défis on trouve dans chaque mélodie on chante. c'est naturellement extrême, c'est le bel canto. C'est écrit très instrumental, ça veut dire ça demande tout de la voix et de l'artiste. Et en plus, on a cette situation dramatique où les caractères sont pris. De chanter ça, c'est vraiment très, très difficile.
Alors, vous chanterez aux côtés de Nicolas Testé, Diana Damrau, le 15 décembre à la Philharmonie de Paris. Vous chanterez des reines, il y aura également des rois à vos côtés dans ce programme. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Puisqu'il n'y aura pas que des reines de Tudor, hein?
Oui, c'est vrai, pas que des reines de Tudor. Ce sera vraiment une occasion royale pour nous tous dans le grand palais de l'art. Pour nous, c'est une grande fête et je crois que ce soir, tout le monde sera roi et reine parce que aussi, on va de Donizetti, il y a des reines et rois de Rossini, il y a aussi un peu de répertoire russe. Donc ça va être très beau et très festif et à la fin je chanterai l'air de Norma qui est aussi une reine, on peut dire une reine des druides, mais c'est aussi une prière et une prière pour la paix et pour la beauté et que tout le monde soit ensemble, je crois. Le programme qu'on avait conçu pour la tournée, je le vois dans une différente lumière maintenant et je trouve que c'est bon.
On se réjouit de vous retrouver sur une scène française et on se réjouit de vous entendre également à la rentrée chanter un autre compositeur cher à votre cœur, c'est Richard Strauss, puisque vous chanterez dans la production de Capriccio à l'Opéra de Paris au mois de janvier. Vous chanterez la Comtesse, c'est une prise de rôle?
Oui, la Comtesse dans Capriccio, c'est une prise de rôle. Tellement contente de pouvoir chanter ça dans ces temps-là. Il s'agit de la culture, il s'agit de la musique, la philosophie, la vie, l'amour. Il y a tout dedans. Et c'est tellement beau et ça rentre tellement dans l'âme. Et c'est drôle, c'est dramatique. Et il y a tout dans cet opéra. Et surtout, ça parle de l'art. Et ça parle du faire du théâtre et on voit de tous les différents points de vue du théâtre directeur de théâtre, du compositeur, du poète, du point de vue du mécène, du point de vue des servants dans le château. Parce qu'il y a une grande discussion qui se développe et à la fin, ils discutent avec leurs propres mots. Ils disent complètement la vérité et c'est tellement frappant et c'est drôle et c'est la vie, c'est la vraie vie. C'est génial.
Et oui, c'était un opéra génial. Et Richard Strauss est un compositeur que vous interprétez à merveille, Diana Damrau. Strauss est un compositeur qui compte de plus en plus pour vous.
Oui, mais ça n'a jamais cessé. Vous savez, j'ai chanté beaucoup de Zerbinetta en Ariadne auf Naxos, j'ai chanté Stenka, j'ai chanté Égyptische Helena. Et toujours les leaders de Richard Strauss, quand les rôles, j'ai laissé à côté un moment, j'ai dit toujours, il faut faire les choses à leur temps. Donc, la voix s'est développée, que j'ai pu chanter le bel canto et la musique française romantique, les opéras comme Roméo et Juliette, par exemple, comme Manon de Massenet. Donc, c'était un peu plus le temps là et j'ai laissé Strauss un tout petit peu à côté, mais il revient maintenant aussi sur la scène d'opéra et je suis tellement contente.
Eh bien, nous aussi, on attend cela avec impatience au mois de janvier. Votre comtesse dans Capriccio et puis plus proche de nous, le 15 décembre, le jour de l'ouverture des théâtres en France, vous serez sur la scène de la Philharmonie de Paris, Diana Damrau avec Nicolas Testé et l'Orchestre National d'Île-de-France pour nous offrir ce programme royal qui réunira des rois et des reines. Merci infiniment d'avoir passé un petit moment avec nous ce soir. Merci beaucoup.
Merci, merci à vous.
Oh,
September, l'un des quatre derniers leaders de Richard Strauss, chanté par Diana Damrau, avec l'Orchestre symphonique de la radio bavaroise et Marie Sjansons. C'était d'ailleurs l'un des derniers enregistrements de Marie Sjansons, qui nous a quittés peu de temps après. Diana Damrau sera donc la comtesse de Capriccio de Richard Strauss, dans cette production qui sera donnée du 26 janvier au 21 février à l'Opéra de Paris, mise en scène par Robert Carsen et dirigée par Marc Albrecht. D'ici là, Diana Damrau sera donc avec Nicolas Testé et l'Orchestre National d'Île-de-France le 15 décembre à la Philharmonie de Paris. Et vient de paraître chez Erato son magnifique enregistrement dédié aux reines de Tudor, avec les scènes finales d'Anna Bolena, de Maria Stuarda et de Roberto Devereux, enregistré avec l'Orchestre de l'Académie Sainte-Cécile et Antonio Papano.
Le coup de cœur de la Croix, avec Emmanuel Giuliani.
Bonsoir Emmanuel.
Bonsoir Laure.
Alors cette semaine, vous nous emmenez en Italie.
Oui, un petit tour à Rome et puis un détour par Milan également. Alors un spectacle dans les conditions d'une représentation normale mais sans public, l'exercice est devenu presque courant désormais dans les salles de concert et les théâtres lyriques du monde entier. Ce sont alors les caméras et les micros qui deviennent les ambassadeurs, les passeurs des artistes pour charmer nos yeux et nos oreilles, comme si on y était ou presque. À Rome donc, l'opéra subit bien sûr le même sort que les autres salles européennes privées de leur auditoire. Et c'est ainsi que le Barbier de Séville, qui était programmé pour cette fin d'automne, sera capté dans le théâtre vide pour être retransmis par la RAI, la télévision italienne, les 5, donc très vite, et 31 décembre. 31 en effet, parce que quoi de plus approprié que cette comédie d'après Beaumarchais, si raffinée et si espiègle, si endiablée aussi et pleine de charme, pour passer d'une année à l'autre. C'est une production qui est mise en scène par Mario Martone et Daniele Gatti est à la direction musicale. J'en profite d'ailleurs pour vous conseiller, si vous voulez offrir ou vous offrir dès maintenant un petit cadeau quelque temps avant Noël, pour vous conseiller donc l'excellent Rossini Mode d'emploi que la musicologue Chantal Cazot vient de publier dans la collection de l'Avant-Scène Opéra. C'est un petit bijou.
Alors entre Rossini et l'Opéra de Rome, c'est une longue histoire.
Oui, et notamment ce Teatro Costanzi, qui est le siège depuis 1880 de l'Opéra de Rome actuel, a ouvert ses portes il y a donc 140 ans avec un ouvrage de Rossini, son très sérieux et magnifique Sémiramis, à l'ambiance bien éloignée de celle du Barbier, mais qui possède lui aussi une musique éblouissante et qui sollicite la virtuosité sans limite des protagonistes dans des airs et dans des duos inoubliables. Le répertoire de l'Opéra romain fait la part belle à l'art vocal italien plus généralement, et en cela, même s'il est peut-être moins mondialement connu que la Scala milanaise, Rome a vu passer dans sa fosse et sur ses planches des gloires lyriques au plus haut niveau, de Maria Callas à Claudio Abbado ou de Luciano Pavarotti à Riccardo Muti. J'évoquais donc aussi la Scala, car toujours sous les caméras de la RAI, je me permets aussi donc de vous signaler, de vous rappeler le 7 décembre, ce jour rituel de l'ouverture de la saison milanaise sous le patronage de Saint-Ambroise, le patron de la ville, un gala qui remplacera cette année l'opéra annoncé initialement et déprogrammé pour cause de crise, Lucia de la Mermour de Donizetti. Alors c'est un gala lyrique et chorégraphique où défilera une pluie d'étoiles, et il serait beaucoup trop long de les citer tous, je ne mentionnerai donc que Lisette Oropesa et Juan Diego Flores, qui étaient les deux principaux interprètes de Lucia. Nous nous séparons avec Riccardo Chailly, patron musical de la Scala, mais dans l'ouverture du Barbier, spectacle actuel à l'affiche de l'Opéra de Rome, pour ce double hommage à l'Italie et à la patrie du chant, qu'est ce pays que nous aimons tant.
Thank you. Quelques notes de l'ouverture du Barbier de Séville de Rossini par Riccardo Chailly et l'orchestre du théâtre de la Scala. Merci beaucoup Emmanuel pour ce petit voyage en Italie et à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine Laure, avec joie.
Quant à nous, demain, nous serons en compagnie de Valérie Chevalier, la directrice de l'Opéra de Montpellier. Merci beaucoup à Robin Rieuvernet pour la réalisation de cette émission. Très belle soirée à tous. Je vous laisse comme toujours.